d'emploi. Mode d'emploi.
Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATAC.
Et nous allons vous parler d'avions aujourd'hui, suite à samedi dernier, ou avec la marche sur les aéroports de Paris. Et d'ailleurs, il n'y avait pas qu'à Paris. Mais nous commençons par l'actualité. Et Jean-Marc va nous parler du Haut-Karabakh.
Alors, le Haut-Karabakh, ou Artsakh, c'est le nom de cette enclave arménienne en territoire azéri qui existe depuis donc la création de l'Union soviétique et qui lui a survécu après l'implosion de l'Union soviétique. La guerre fait rage à nouveau dans cette poudrière du Caucase depuis le 27 septembre 2020, dans ce minuscule territoire de 11 400 km² peuplé de 148 000 Arméniens qui forment donc une enclave.
Et Jean-Marc ne peut pas s'empêcher de nous faire un petit retour historique, bien sûr.
Ce confetti, habité par des Arméniens depuis l'Antiquité n'en finit pas depuis plus de deux millénaires de passer d'un conquérant à l'autre et d'être au cœur de discordes et d'accords plus ou moins boiteuses et fragiles dans cette région qui est une région d'échange, de passage, de friction entre civilisations successives. Aujourd'hui encore, il faut dire que ce n'est pas très confortable d'être coincé entre la Géorgie, l'Arménie, la Turquie, l'Iran et la Russie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Ce sont des pays tranquilles et avec des dirigeants non colériques ni entêtés.
Au moment de la chute de l'URSS, dont elle faisait partie, la province arménienne se proclame indépendante, ce qui déclenche une première guerre lancée par l'Azerbaïdjan et une situation de guerre ouverte et larvée qui dure à peine depuis 29 ans et demi. Aujourd'hui, le conflit rebondit sur fond de redéploiements militaires et diplomatiques dans la région, puisque d'une part, la Turquie, de l'excité d'Ankara Erdogan, se complaît dans les roulements de tambour, quitte à déstabiliser toute la région, pour différentes raisons. Tandis que les Russes, après avoir maté Tchétchènes et Géorgiens, voudraient pour une fois calmer le jeu. Tandis que l'Europe, selon son habitude, condamne sans rien faire et en attendant de voir. Et que l'Iran cherche le bon angle pour s'immiscer dans le conflit. Alors, tout d'abord, on va voir les intérêts des uns et des autres.
Donc il y a ailleurs deux bords, il y a les Azéris et les Turcs.
Alors, les Azéris et les Turcs, c'est d'abord une proximité linguistique. Les deux sont turcophones, ils sont très proches, mais en même temps distincts, parce que les Turcs sont sunnites et les Azéris sont chiites. Attention, d'une branche donc dissidente du chiisme, ça se complique, ce qui fait qu'ils sont proches des Iraniens tout en étant un petit peu ennemis. Il faut s'accrocher.
Si vous n'êtes pas perdu, visitez les Balkans.
Ils partagent plusieurs intérêts. Le premier est pétrolier. L'Azerbaïdjan, c'est un très gros producteur de pétrole, et avec le gisement de Bakou sur la mer Caspienne. Ce gisement de Bakou pourrait rentrer dans les plans de gazoducs de la Turquie, qui depuis des années essaye de faire passer les gazoducs par son territoire d'essayer de concurrencer d'une part le chemin russe et d'autre part le chemin syrien, qui avait été voulu par les Russes également. Ce qui est l'un des angles d'attaque aussi du problème syrien. Accrochez-vous.
Un deuxième petit cas de conflit, peut-être ?
Alors, la deuxième chose rapproche les Azéris et les Turcs, c'est leur côté historico-haineux. Ils sont obsédés par l'histoire et légèrement haineux, à savoir la haine des Turcs et des Azéris envers les Arméniens. Les Arméniens déplaisent beaucoup aux Azéris et aux Turcs parce qu'ils ont deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est d'être chrétien. Le deuxième, c'est d'avoir été là 2000 ans avant les autres. Et donc, pour des ultranationalistes comme les Azéris et les Turcs, ça l'affiche mal d'avoir des gens qui sont là 2000 ans avant vous, dans la même région. Les dirigeants turcs et azéris se pensent encore en 1915. Et si la Russie ne leur faisait pas un petit peu peur, ils s'y remettraient peut-être avec la même ardeur qu'il y a 105 ans. Et c'est pourquoi peut-être aussi Erdogan a fait passer des islamistes syriens pour soutenir les Azéris. Il faut dire que ces islamistes syriens ont déjà fait leurs armes, justement, en massacrant du chrétien en Syrie.
Mais tu as déjà cité deux beaux cas de dispute ou de proximité, comme tu dis. Il y en a peut-être un troisième.
Ah oui, alors il y a une chose qui est spécifiquement turque, c'est la nécessité pour Erdogan, qui est de plus en plus critiqué en Turquie, bien qu'il fasse emprisonner de plus en plus de gens, de créer des contre-feux médiatiques pour éviter que les problèmes de corruption se voient trop, pour que la crise économique qu'il ne sait pas gérer se voit trop, et ainsi de suite. Donc rouler du tambour, ça a toujours marché.
Alors maintenant, franchissons une frontière et passons du côté arménien.
Alors les Arméniens, ils sont bien embêtés. Ils sont indépendants depuis 1991 et ils sont très partagés. Parce que d'un côté, il y a le désir logique de réunir le territoire du Karabakh, qui est très voisin. Il touche même l'Arménie, donc par un petit corridor. Ce territoire, il est peuplé d'Arméniens. Donc ce serait logique de le réunir à l'Arménie. Sauf qu'ils ne veulent pas déclencher les hostilités avec l'Azerbaïdjan parce que justement l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie d'Erdogan qui envoie tous les armements possibles et même des généraux et des conseillers militaires. Donc l'Arménie, de l'autre côté, est alliée à la Russie. On pourrait se dire que c'est une assurance anti-turque. Sauf que ce soutien n'est pas forcément très sûr au milieu de la politique trouble des deux ogres turcs et russes. Et d'autre part, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si le soutien de Moscou devenait effectif à l'Arménie, devenait important, il pourrait, selon la bonne habitude russe et russo-poutinienne, devenir symbole de satellisation de l'Arménie et faire retomber l'Arménie avant 1991.
Alors là, tu critiques la Russie, mais quand même... La Russie a aussi son intérêt dans ce conflit.
Bah évidemment, la Russie aime à imposer donc son protectorat dans la région. Ils ont perdu cette sorte de protectorat avec l'implosion de l'URSS en 1991, mais ils considèrent toujours que c'est une chasse gardée et que sur cette zone, ils ont un droit de regard absolu. Alors la situation est complexe pour eux aussi. Alors bien sûr, il y a le pétrole de la Caspienne, qu'ils n'ont jamais digéré d'avoir perdu. Il y a leur alliance avec l'Iran, qui est toujours un petit peu encombrant et un petit peu difficile. Il y a les Occidentaux qui sont toujours à l'affût d'un faux pas russe de Poutine. Et puis il y a la bagarre pour l'influence régionale avec la Turquie, laquelle Turquie est toujours et hélas membre de l'OTAN. Et le fait de ne pas trop pilonner les musulmans du coin pour éviter de relancer des troubles dans les régions musulmanes de Russie, comme la Tchétchénie par exemple. Bref, le bazar caucasien, dans toute sa complexité et toute sa férocité, comme tu le disais, ça ferait presque rêver des Balkans.
Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas caucanisation plutôt que balkanisation, je ne sais pas.
Parce que c'est plus loin.
C'est plus loin, ça doit être ça. Alors, on continue encore avec l'actualité et à toi de jouer.
Alors, cette fois, je vais dans les Balkans. Justement, je suis en Grèce. Alors, Aube Dorée est un charmant parti grec fondé en 1993 par de charmants jeunes gens nostalgiques de la dictature des colonels qui avait sévi entre 67 et 74 en Grèce. Ces charmants garçons sont également de fervents admirateurs de Goebbels, Rosenberg et Hitler, qu'ils citaient dans leur revue éponyme Aube Dorée, créée en 1980. Cette délicieuse mouvance, en plus de prôner la Grèce pour les Grecs, ce qui n'est pas aller savoir pourquoi sans rappeler un parti français, prône le nationalisme, le patriarcat, la domination blanche et chrétienne, le négationnisme, l'homophobie, l'ordre et toutes les rengaines rances des extrêmes droites. Longtemps marginal, le mouvement prend de l'ampleur grâce aux scandales politiques à répétition qui émaillent la vie politique grecque, puis surtout... À la faveur de la crise économique et financière qui lamine la Grèce autour de 2010, les séides du parti multiplient les ratonnades, les intimidations sur les étrangers, sur des militants de gauche, mais le parti finit néanmoins par entrer au Parlement avec 18 députés en 2012 et obtient quelques trop bons scores aux municipales suivantes, notamment à Athènes. Le parti n'en finit pas de faire scandale au Parlement comme dans les rues, où l'un des délicats députés faisant campagne à Athènes explique sur le ton de la plaisanterie à ses amis, devant des micros, le sort réservé aux militants de gauche et aux immigrés. Ouvrez les guillemets. « Nous sommes prêts à ouvrir les fours. Nous en ferons des savons pour laver les voitures et les trottoirs. On fabriquera des abat-jours avec leur peau. » Pour ne pas laisser ce charmant jeune homme tout seul, le chef du parti défend publiquement des thèses négationnistes sur les radios. Les outrances verbales, les exactions racistes des militants du parti, l'assassinat d'un jeune rappeur antifasciste en 2013, Pavlos Fissas, vont enclencher la machine judiciaire grecque qui vient de condamner 5 des anciens députés d'Aube Dorée le 7 octobre 2020 et de qualifier le parti d'organisation criminelle. Les Grecs ont inventé la démocratie et sont donc capables de la défendre. Espérons que les politiques et la justice française seraient capables ou seront capables d'en faire de même.
Et c'était les deux uniques chroniques de Jean-Marc, qui a été peut-être long, mais pour une fois, court en nombre. Alors on va maintenant passer à l'interview de notre invité, on l'a fait ce matin, il s'agit de Laurence d'Attac, qui nous parlait du problème de l'aviation internationale, c'est-à-dire des problèmes de pollution, d'accès aussi à ce moyen de transport difficile. Et voilà, on attaque l'interview.
La crise sanitaire du coronavirus a entraîné une forte réduction du trafic aérien Et plusieurs organisations veulent poursuivre ce mouvement de décroissance. Le week-end dernier, par exemple, ATTAC, Alternativa, l'ANV COP21 et d'autres organisations ont organisé une marche sur les aéroports, avec les objectifs notamment de réduire le transport aérien, de soutenir les salariés du secteur aéronautique et de lutter contre l'expansion de Roissy et d'autres aéroports. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Boubet, militante ATTAC et qui participe au groupe de travail aérien d'ATTAC, qui a produit récemment des analyses sur cette décroissance du secteur aérien. Laurence, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? C'est-à-dire que je crois savoir que tu es issu du secteur aérien. Donc, comment tu en es venu à te battre pour la décroissance du secteur aérien?
Non, je suis pas. On peut pas dire que je sois issue du secteur aérien. Je suis tombée dedans toute petite, puisque mon père a fait toute sa carrière à l'aéroport de Paris. Et il y a très longtemps, il y a plus de 35 ans, j'ai fait des études et l'école supérieure des transports. Et puis, j'ai fait un mémoire sur le transport aérien dans l'ouest de la France, qui parlait déjà de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, j'ai eu une orientation professionnelle complètement différente. Donc, je suis pas du tout restée dans le secteur. J'ai suivi, ne serait-ce qu'en discutant avec mon père, les questions de déréglementation de compagnies low cost. Et j'ai repris pied dans le secteur, dans la lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Et puis là, effectivement, au moment du confinement, quand on a vu que l'arrêt complet du secteur, on s'est dit que là, il fallait qu'on commence à travailler la question de façon sérieuse parce que les perspectives étaient quand même plutôt sombres.
Donc plus qu'au sombre, le mot qu'emploient les militants et typiquement les militants altermondialistes et écologiques, c'est une décroissance du secteur aérien. Alors, pourquoi une décroissance? On imagine d'écologie, on imagine des inégalités, c'est ça?
Oui, donc, bon, je pense que le principal, la principale motivation, c'est effectivement l'impact climatique. Donc l'impact climatique, c'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de débats. Le secteur a réussi à avoir une place un peu à part. Le transport aérien n'est pas dans le protocole de Kyoto et pas directement dans les accords de Paris. Et donc ils ont géré leurs choses, leurs affaires un peu entre eux. Et donc du coup, le secteur aérien, dans sa globalité, dit, mais nous, on représente que 1-2% des émissions de gaz à effet de serre. En fait, quand on creuse la question, il y a ce qu'on appelle donc les traînées de condensation, qu'on voit les traînées de vapeur d'eau dans le ciel. Tout ça, ça a un impact sur l'empreinte carbone du secteur. Et en fait, l'empreinte carbone du secteur, elle est au moins supérieure à 5%, voire plus selon les calculs. Et donc, à ce titre-là, bien sûr, on peut considérer que c'est que 5% ou 7%, mais tout le monde, tous les secteurs doivent prendre leur part. Tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre doivent s'engager dans une trajectoire de réduction. Si le secteur aérien ne le fait pas, à l'horizon 2050, le secteur aérien pourrait représenter 80% de l'empreinte carbone de la France, hein. Empreinte carbone qui, bien évidemment, doit se réduire très fortement. Représenter 80% rien que pour le transport aérien, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Alors, bien sûr, on peut évoquer tous les autres impacts, hein, le bruit. En particulier pour les riverains, la pollution atmosphérique, voilà. Mais c'est vrai que ce qu'on met en avant là en ce moment, c'est l'impact climatique parce que c'est l'urgence, quoi.
Il y a aussi une surconsommation des ressources dans l'état actuel des consommations, pas des plans futurs énergétiques, mais aujourd'hui, les hydrocarbures sont consommés et consommés par peu de monde.
Oui, tout à fait. Le transport aérien a connu une croissance complètement exponentielle ces dernières années parce que Suite, la déréglementation a été complètement achevée à la fin du XXe siècle, et à partir de là, il y a eu la croissance des compagnies low cost. Le trafic double à peu près tous les 15 ans, et les perspectives de croissance indiquaient la poursuite, avant le Covid, indiquaient la poursuite de ces tendances. Et bien évidemment, c'est une consommation d'hydrocarbures fossiles qui est insupportable, quoi.
Alors, je sens pour réduire cet impact carbone de l'aviation, on présente des solutions technologiques innovantes comme l'avion hydrogène, les biocarburants ou des solutions de compensation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple en plantant des arbres de manière à compenser le bilan carbone des avions. Est-ce que ces solutions technologiques ne suffiraient pas justement à maintenir le même niveau de trafic aérien tout en annulant ou au moins en réduisant fortement ces impacts environnementaux?
Non, très clairement non, ça ne peut pas être suffisant. Alors, le secteur aérien, culturellement, a une tendance à se sentir au-dessus de la mêlée, de façon à la fois physique et aussi culturelle, à traiter ces questions à part des autres. Et donc, là, les solutions qui sont avancées, pour beaucoup d'entre elles, je vais revenir dessus, sont des solutions qui sont déjà des solutions de décarbonation d'autres secteurs. Et donc, le secteur aérien, voilà. Donc, si on, pour l'illustrer, les agrocarburants, les agrocarburants, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un développement des agrocarburants pour l'aviation, mais sauf que les agrocarburants, par définition, c'est des plantes qui se cultivent, tout ça. Et il y a d'autres secteurs qui envisagent l'utilisation de, que ce soit l'industrie, mais aussi les transports maritimes, les transports routiers. Donc, le secteur aérien réfléchit dans son coin, quoi, à des solutions, en se disant, ah bah oui, nous, on va travailler sur les agrocarburants, mais sauf que, oui, mais ils ne sont pas les seuls, quoi. Après, on a, donc, c'est pareil sur la question de l'hydrogène. Donc, la question de l'hydrogène, en préalable, il y a la question de ses conditions de production. Pour l'instant, l'hydrogène, globalement, il est produit à partir d'énergies fossiles, et c'est pas de l'hydrogène vert. Si on imagine avoir de l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables, c'est pareil. Cet hydrogène vert, c'est une des pistes de décarbonation du secteur routier, une des pistes de décarbonation du secteur industriel. Toutes ces solutions. Et la compensation, c'est pareil. La compensation, planter des arbres, tout le monde veut planter des arbres. Tous les secteurs qui veulent se décarboner veulent planter des arbres. On atteint très rapidement les limites physiques de ces solutions. Donc, toutes ces solutions, elles sont réfléchies un peu dans le bocal aérien et tiennent pas du tout compte de la globalité de la question. Donc, nous, on est tout à fait favorable à ce que l'industrie aéronautique continue à financer des recherches et développements dans ces secteurs, sur l'hydrogène, sur les agrocarburants. Mais ce n'est pas la solution pour décarboner le secteur à hauteur de son empreinte climatique. La solution pour décarboner le secteur, c'est de réduire le trafic.
Un autre point de critique fort du transport aérien, c'est qu'il ne concerne qu'une faible partie de la population terrienne. On a peut-être tous en tête cette fameuse pyramide où à la base, il y a je ne sais pas combien de pourcentage, plus de la moitié de la population qui n'a que comme moyen de transport ses pieds. ensuite les transports publics, le train, la voiture, et puis tout en haut, un pourcentage excessivement faible qui a un jour pris l'avion dans sa vie à l'échelle de la planète. Est-ce que aussi, certains ont parlé de démocratisation de l'avion, en ayant de plus en plus d'avions low cost, mais de plus en plus de pollution. Comment tu vois cette analyse qui s'oppose entre démocratisation avec un pourcentage tellement faible de la population?
Oui, quand on regarde les statistiques, effectivement, il y a la démocratisation. Bon, on sait bien, nos entourages, on a pu utiliser des compagnies low cost pour aller passer un week-end. Et c'est des choses qui n'auraient pas été envisageables il y a 30 ans. Donc, on peut considérer que l'avion est devenu accessible à des catégories, on va dire en gros aux classes moyennes, sur les 30 dernières années. Mais de fait, l'irruption des compagnies low cost, ça a surtout permis la multiplication des déplacements aériens de la couche la plus élevée de la population, des plus riches. C'est les plus riches qui maintenant prennent l'avion pour un oui, pour un non, pour aller passer un week-end. Quand on oppose l'argument de la démocratisation, il y a de fait, la situation du secteur aérien, avec les subventions des collectivités locales aux petits aéroports, les subventions de l'État à l'industrie aéronautique, tout ça, de fait, nos impôts permettent aux plus riches d'entre nous d'utiliser l'avion. Cette histoire de démocratisation, elle reste quand même complètement limitée, quoi. Et je pense que ce qui est important aussi sur la démocratisation, c'est bien sûr ce qu'on entend, c'est pourquoi j'aurais plus le droit d'aller passer un week-end à Prague? Parce que il y a nos enfants après nous et qu'on peut pas se permettre ça. C'est globalement, c'est pas machin qui peut plus aller prendre passer un week-end à Prague. C'est que globalement la société peut plus le permettre. Et c'est nos enfants qui en paieront le prix.
Et revenons aux années 60 où Gilbert Bécaud, lui, mettait toute sa joie dans un dimanche à Orly.
À l'escalier C, bloc 21, j'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans.
Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat. Porte numéro 40.
Et on se retrouve sur Fréquence Paris Pluriel, on atterrit, c'est 106.3. Et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, par Attaque et les anciens du PIAF.
Nous sommes avec Laurence Goubet, militante Attaque et membre du groupe de travail aérien d'Attaque. Nous avons présenté les raisons pour lesquelles il faudrait faire décroître le secteur aérien. Alors, face à cette nécessité, que fait le gouvernement? Est-ce qu'il ne s'est pas déjà engagé dans cette décroissance?
Le gouvernement ne s'est très clairement pas engagé sur la décroissance. C'est vraiment en dehors du schéma de pensée gouvernemental. Le gouvernement, donc il y a une stratégie nationale du transport aérien qui a été adoptée en 2019, donc avant le Covid. Cette stratégie nationale du transport aérien repose sur croissance zéro carbone à partir de 2020. Donc l'idée, c'était, avant le Covid encore une fois, que toute la croissance du trafic aérien dont on pensait qu'il allait doubler dans les 15 ans à venir serait neutre en carbone. Donc, on resterait au niveau d'émissions de 2019, on va dire. Cette stratégie repose uniquement, on va dire, quasi uniquement sur les dispositifs de compensation, les dispositifs Corsia. Et comme je l'ai dit précédemment, ça ne fonctionne pas, quoi. En dehors de ça, le gouvernement donc finance les recherches, soutient toutes les recherches sur les fameuses solutions agrocarburants, avions électriques. On n'a pas évoqué l'avion électrique, mais hydrogène. Mais le gouvernement n'a jamais jusque-là imaginé qu'on pourrait réduire le trafic aérien. Alors, Bruno Le Maire, enfin, il y a eu des prises de position, en particulier pendant le Covid, sur la question de la fermeture des lignes aériennes intérieures, celles qui sont pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire. Donc, les propositions de loi qui avaient été émises sur le sujet parlaient de une alternative ferroviaire en moins de 4 heures ou en moins de 5 heures. La Convention citoyenne sur le climat avait repris en parlant aussi de moins de 4h30 ou moins de 5 heures. Le gouvernement a retenu cette idée en parlant de fermeture des lignes aériennes inférieures à 2h30. C'est peanuts. Alors, en plus, bon, le secteur souligne à juste raison que, comme beaucoup des mesures dont on va reparler, il y a des effets pervers pour un potentiel. Et donc, si on n'a pas une approche globale des mesures, ce qu'on fait d'un côté provoque plus d'effets pervers. Donc, et de fait, quand bien même on arriverait réellement à fermer ces lignes intérieures, c'est peanuts sur la réduction de l'empreinte carbone. L'essentiel de l'empreinte carbone du trafic aérien, ce sont les liaisons internationales. Donc, c'est complètement emblématique, les lignes aériennes intérieures, mais c'est pas du tout à l'échelle de la question. Et donc, le gouvernement, en gros, il fait pas grand-chose, quoi.
Alors, on va donc passer aux propositions. Quelles sont les propositions des altermondialistes et d'attaque en particulier par rapport à cette question d'aviation?
Alors, il y a deux principes par rapport à ces propositions. Il y a un premier principe qui est d'avoir une approche globale. On n'est pas favorable à on ferme les lignes aériennes intérieures d'un côté, on augmente la taxation du kérosène de l'autre. Il faut vraiment qu'on ait une approche globale. L'autre principe, c'est un principe de justice. Le transport aérien historiquement, si le kérosène est détaxé, c'est parce que après la Seconde Guerre mondiale, on a considéré qu'il fallait soutenir ce secteur. Voilà, tous les dispositifs visent à soutenir le transport aérien. Mais sauf que c'est pas juste par rapport à tout ce qui est investi dans le transport aérien et pas investi dans le transport ferroviaire. Donc, le second principe, c'est la justice, l'équité entre les différents modes de transport et la prise en compte de leur réel impact climatique. À partir de là, on peut décliner un certain nombre de mesures. Il y a des mesures qui visent à réduire le transport aérien. Il y a la fermeture des lignes. Mais il y a tout un ensemble de mesures économiques qui visent en fait à renchérir le coût du transport aérien pour qu'il soit à son juste prix, qu'il prenne en compte les externalités de pollution, d'impact climatique. Et donc c'est ben taxer le kérosène. Par rapport à la question du bruit, au niveau européen, dans les 30 dernières années, il y a eu des réglementations qui ont été adoptées au niveau européen qui limitaient le bruit des aéronefs pouvant se poser sur les aéroports européens. C'est une réglementation qui a été très efficace. Parce que, ben voilà, y compris Boeing avait besoin de poser ses avions, les compagnies utilisant des Boeing avaient besoin de poser leurs avions sur les aéroports européens. C'est une mesure qui a été très efficace. On pourrait adopter une mesure du même type, adopter une mesure qui limiterait très fortement, qui conduirait à ce qu'il y ait un renouvellement du parc des avions et voilà et qui accompagnerait la diminution de l'empreinte carbone.
Alors, tu parlais de taxer plus le kérosène, mais est-ce que ça ne mettrait pas en difficulté notre industrie aéronautique, que ce soit les compagnies aériennes ou les aéroports, vis-à-vis de la concurrence européenne
qui, oui,
il
alors ça.
Un dumping là-dessus.
Effectivement, il y a eu une offensive médiatique sur le sujet. La Direction générale de l'aviation civile a sorti ses statistiques. Voilà, si on augmente le kérosène, c'est, je ne sais plus, 150 000 emplois en moins. Bien évidemment que si on retaxe le kérosène, il y a des problèmes de compétitivité de notre transport aérien. On sait bien que les solutions, elles sont à minima au niveau européen. Maintenant, c'est comme un certain nombre de mesures. La France pourrait donner l'exemple sur la taxation des transactions financières, sur la taxe GAFA. Il y a une capacité de donner l'exemple. La France a un statut quand même tout à fait particulier dans le monde, qui est le statut lié à son industrie aéronautique. Et à ce titre-là, elle a une capacité d'exemple et qui est bien supérieure aux autres pays. Donc,
justement, ce statut de nation aéronautique est aussi une fragilité si on a pour objectif de réduire le transport aérien. C'est un des arguments qui est mis en avant par ceux qui voudraient freiner cette décroissance du secteur aérien, c'est la question de l'emploi. On sait que le secteur aérien, aujourd'hui, c'est 300 000 emplois en France, avec des bassins d'emploi très dépendants, comme la Haute-Garonne, où c'est 46% de l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces salariés du secteur aérien qui sont inquiets pour leur emploi, à juste titre?
C'est effectivement une interrogation complètement légitime. Nous, ce qu'on pense par rapport à ça, c'est que il faut avoir une approche globale. On s'en sortira pas sans un véritable plan de reconversion du secteur. Si on admet la réduction du transport aérien, obligatoirement, il va falloir reconvertir un certain nombre d'emplois. Donc, nous, on est favorable, une des premières mesures, à ce qu'il y ait un pôle de transport public où l'État reprenne la main bien plus qu'il ne l'a actuellement sur les compagnies de transport aérien et prenne un certain nombre de mesures par rapport aux compagnies de transport aérien. Donc, il faudrait interdire les licenciements, mettre en place des dispositifs de reconversion avec des systèmes de formation professionnelle importants. Par rapport à ça, en termes de financement, quand on dit si on l'écotaxe ou si on retaxe le kérosène, ce qu'il faut voir, c'est que à l'heure actuelle, la détaxation du kérosène, c'est des ressources en moins pour l'État. Et que si on taxe le kérosène, si on met en place une écotaxe, c'est des ressources qui vont rentrer dans les caisses de l'État et qui permettraient de financer un plan de reconversion du secteur avec tout un ensemble de mesures d'accompagnement des salariés.
Alors, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets. Il y a un autre sujet, c'est celui du tourisme, et ça sera peut-être le cas d'une autre émission pour aller du slow travel où les gens qui aiment prendre l'avion pour aller pendant leurs vacances, qui ont les moyens de le faire, bien entendu, pourraient voyager autrement. Mais pour terminer ce thème pour aujourd'hui, ce qui nous fait envie, là, évidemment, c'est de parler des actions citoyennes pour avancer sur ce sujet. Que peut-on faire individuellement ou en groupe, et que propose, entre autres, ATTAC par rapport à ça?
Alors, il y a une première idée qui est que voilà, on a commencé à réfléchir à la question, à écrire, à prendre des contacts dans les secteurs. On a un rôle à ATTAC classique qui est de populariser nos idées, d'expliquer. De réaliser des analyses et de porter ces analyses dans le public pour montrer que voilà que il faut réduire le transport aérien et toutes les mesures qu'on peut proposer. Donc la première idée, c'est en parler, diffuser, voilà. La deuxième idée, et ça c'est un des fondamentaux d'ATTAC, c'est de faire le lien. Et là, c'est vrai que quand on a commencé à creuser la question du transport, du secteur aérien, on s'est rendu compte que il y avait un gouffre entre les positions globalement du secteur aérien, qui est assez replié sur lui, à défendre son secteur les associations altermondialistes, les ONG du climat qui sont sur la réduction du transport aérien. Je pense qu'un des rôles d'ATTAC, c'est d'essayer de faire le lien entre ces différentes problématiques et de proposer des mesures qui permettent de faire le lien et de faire avancer le système.
Et pour le citoyen qui, là, voudrait venir contribuer, c'est rejoindre ATTAC, s'il le veut, évidemment, dans toute la démarche que vous venez d'expliquer. Il y a aussi des groupements un petit peu plus percutants sur le terrain, avec le groupe Action d'ATTAC, avec aussi Alternativa qui a pris ça bien en main. Est-ce que tu as d'autres actions possibles, des sites, des adresses à aller voir pour ceux qui voudraient rentrer dans ce combat?
Alors, je voudrais citer quand même ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui me paraît important, c'est que le secteur aérien, les salariés du secteur aérien prennent en main les choses. On va pas pouvoir le faire à leur place. Dans le groupe de travail aérien d'ATTAC, il y a un certain nombre de salariés du secteur, mais il faut qu'ils se prennent en main. Et à ce titre-là, je voudrais citer le collectif Pensons l'aéronautique pour demain, qui s'est constitué sur Toulouse, donc voilà, sur le secteur aéronautique, sur la prédominance et l'enjeu du secteur aéronautique sur la région toulousaine. Donc, ce collectif qui regroupe des salariés, des syndicats, ATTAC Toulouse, la Fondation Copernic, les Amis du Monde Diplomatique, organise un forum demain, 10 octobre, sur les perspectives du secteur sur la région toulousaine. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et à ATTAC, on va tout faire pour soutenir toutes les initiatives des salariés, pour reprendre les choses en main et éviter une catastrophe économique et sociale sur Toulouse, mais de façon plus générale sur le secteur.
Bien, bien, merci Laurence pour ces pistes d'avenir.
Ces pistes d'avion.
Et d'avion. Et donc nous encourageons tous les citoyens qui le souhaitent à rejoindre ces actions. Merci.
Merci.
Tombé du ciel à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive.
Et parmi les actions, nous avons évoqué la marche sur les aéroports, et ça tombe bien, nous avons en téléphone Camille qui a participé à la marche sur l'aéroport à Roissy. Alors Camille, qu'est-ce qui s'est passé à Roissy le 3 octobre ?
Alors le 3 octobre, sous l'organisation d'Alternativa, Amis de la Terre et ANV COP21, il y a eu une action de désobéissance civile qui a été organisée, non violente, et qui avait pour but d'envahir l'aéroport et, si possible, de bloquer le trafic pendant un moment pour voilà, pour faire passer le message sur ce site-là, notamment pour le fait que le terminal T4 qui va être créé est une catastrophe écologique qui est rare en fait actuellement, c'est-à-dire que on crée un deuxième Orly sur Paris avec uniquement un terminal. Et donc, pour protester contre la construction de ce terminal, et dans le cadre d'une lutte nationale, ces associations ont décidé d'envahir le tarmac et de faire une prise de parole à ce moment-là.
Alors, vous avez réussi à bloquer le terminal ou...
Alors, il y a eu deux actions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une action, on va dire, à peu près légale dans le terminal de Roissy-Charles de Gaulle, où des militants ont déployé des banderoles à l'intérieur du terminal et bloqué en partie le fonctionnement normal. Et il y a eu une action directement sur les pistes où on a réussi à perturber un peu le trafic et surtout à faire passer un message.
Oui, voilà, c'est ça qui est important. Au-delà de la perturbation, est-ce que vous avez réussi à faire passer votre message ?
Alors au niveau des médias, oui, parce que c'est vrai que les actions de désobéissance civile ont cette vertu qu'elles permettent de ramener la presse. Et oui, il y a eu un écho médiatique dans Le Monde, sur France 3. Enfin voilà, on a eu ce message qui est passé. Et voilà. Bon, après, par ailleurs, derrière, il y a ce qui est aussi, c'est qu'il y a eu 125 gardes à vue.
Oui, c'est un des risques des actions de désobéissance.
Pardon ?
C'est un des risques des actions de désobéissance.
Oui, c'est un risque assumé. C'est complètement connu de la part des militants. Enfin voilà, la garde à vue fait partie de ce qui peut arriver. Et derrière, il y a également 5 convocations au tribunal en juin prochain pour des militants qui sont accusés notamment de destruction de biens, je crois.
D'accord. Voilà. Ça pourra être l'occasion d'une tribune pour le mouvement ?
Ça va être une tribune. Très clairement, ça va être un lieu de rassemblement où les militants seront présents pour défendre la cause environnementale autour du secteur de l'aviation notamment, qui est un secteur en grande partie dédié aux loisirs aujourd'hui ou au confort. Et qui profite à une minorité de la population. Donc, ce qui crée un déséquilibre complet dans le bilan carbone de la population française.
Est-ce que les voyageurs qui étaient retardés par cette action ont été compréhensifs ? Est-ce que vous avez pu parler avec eux, vous faire comprendre ?
Alors non, parce que moi, j'étais très loin des voyageurs. On était plutôt vers des CRS, on va être honnête. Qui, dans l'ensemble, ont eu une très bonne réaction. C'est vrai que on avait... J'ai dit les CRS, je me trompe, c'était la gendarmerie nationale. avec nous. Et la gendarmerie nationale a eu, en tout cas chez les gens à qui on a pu parler, les réactions étaient très bonnes en fait. Il y avait, c'était vraiment très bon enfant, on a vraiment été très bien traités. Et certains militants ont même pu échanger avec des CRS autour de la problématique du climat. Et...
Très, très rapidement, comment tu envisages la suite de ces actions ?
La suite de cette action, bah déjà, il y a la suite pénale, enfin pénale, juridique, ouais. Avec bien évidemment le procès qui va se passer. Et cette action, c'est une prise de parole. Ce n'est qu'une action. Donc, de toute façon, il va falloir. Elle n'est pas suffisante en elle-même et il va falloir faire d'autres choses parce que jamais on ne modifiera la trajectoire d'un État avec une seule action.
Et tous ceux qui veulent rejoindre ces actions non violentes et de désobéissance civile utile peuvent évidemment s'adresser aux différentes associations qui ont participé à cet organe et qui feront passer le mot vers les groupes dont l'existence est évidemment beaucoup plus masquée qui s'organisent pour ces actions de désobéissance civile.
Merci Camille.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et on termine l'émission avec la chronique d'Alex qui s'intitule aujourd'hui « Hydrogène et capitalisme ».
Et oui, lors de la dernière mission, on avait évoqué le monde de demain. Pour une raison qui me reste encore mystérieuse, notre vision du monde de demain est un peu de gauche, un peu alternative, écologique et sociale, et même tellement sociale qu'elle est limite un peu bolchevique en fait. Donc pour réagir, je vous propose une vision plus réaliste, plus capitaliste du monde de demain. Je vais même vous présenter une vision du monde qui réconcilie le réalisme économique et la nécessité de la transition énergétique, un capitalisme vert.
Ta-tan.
La transition énergétique, c'est le fait de remplacer des sources d'énergie fossiles qui sont à la fois non renouvelables et fortement polluantes par des sources d'énergie renouvelables et très faiblement polluantes. Autrement dit, on remplace les usines à gaz et les centrales à charbon par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité verte. Problème, comme chacun sait, la nuit il n'y a pas de soleil, le vent ne souffle pas en permanence, donc il faut trouver un moyen de stocker l'électricité verte. De même, il faudra bien trouver quelque chose pour remplacer le mazout qui fait avancer les bateaux ou l'essence qui fait avancer les camions. Eh bien, on a la solution au problème, l'hydrogène vert. L'électricité verte est utilisée pour produire de l'hydrogène qui, couplé à de l'oxygène dans une pile à combustible, va générer l'électricité. Cette technologie est encore balbutiante, mais prometteuse. L'ensemble électricité solaire et éolienne, hydrogène et pile à combustible pourraient théoriquement permettre de stocker des quantités très importantes d'électricité verte et d'alimenter des piles à combustible permettant de déplacer des moyens de transport lourds comme des camions ou des bateaux. Alors pour les avions, par contre, il faudra repasser. En gros, l'hydrogène remplacerait le pétrole, le gaz et le charbon dans un certain nombre de leurs fonctions. L'hydrogène, ça serait un peu le mazout du futur. C'est propre. La pile à combustible ne dégage que de la vapeur d'eau. C'est stockable et transportable. L'hydrogène peut être conservé et transporté dans des réservoirs.
Donc tout va bien.
Exactement. Dans ce tableau idyllique, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une petite part d'ombre ? Petit quelque chose qui ne va pas ? Et alors, oui, un détail, mais le diable est dans les détails. Et ce détail, c'est le prix. Produire de l'énergie, de l'hydrogène coûte cher car on utilise beaucoup d'énergie pour y parvenir. La technique la moins coûteuse consiste à utiliser du méthane, c'est-à-dire le gaz qui produit le plus d'effet de serre. On parle d'ailleurs d'hydrogène gris. Alors l'hydrogène gris coûte environ 1,50€ le kilo, ce qui, si les piles à combustible étaient tout à fait au point, serait presque compétitif si on le compare au pétrole ou au gaz. Mais tout à fait désastreux sur le plan écologique. Strictement aucun intérêt à l'hydrogène gris de ce point de vue-là. L'hydrogène vert, lui, coûte entre 4 et 5 euros le kilo, soit presque 3 fois plus. Alors, est-ce que c'est la fin du rêve ? Est-ce que l'hydrogène vert ne serait qu'une utopie de plus à ranger dans l'immense décharge des fausses bonnes idées ? Eh ben non, car on a une solution. Et cette solution, ça s'appelle la subvention. Selon Bloomberg NEF, autrement dit New Energy Finance, tout un programme, si les États distribuent au cours des 10 prochaines années 150 milliards de dollars de subventions, on pourrait parvenir à réduire le prix de moitié en 2030. La subvention permettrait de financer les investissements nécessaires pour produire de l'hydrogène vert en grande quantité et du coup réaliser les économies d'échelle qui deviendraient possibles à partir du moment où on produit des quantités très très importantes. Et si Ça va un peu plus loin. Si au lieu de se contenter de 150 milliards d'ici à 2030, si d'ici 2050 on met 365 milliards de dollars, on peut peut-être baisser encore le prix en dessous des 2 euros le kilo. Et là, ça devient carrément compétitif. Et donc l'utopie est en marche. Et l'utopie est tellement en marche que, je vais vous dire quelque chose, le rapport de Bloomberg, donc, que je cite, il date d'avril de cette année, avril 2020. En juin 2020, le gouvernement allemand annonce qu'il va consacrer 9 milliards de son plan de relance au développement d'une filière d'hydrogène vert en Allemagne. En septembre 2020, c'est la France qui annonce mettre 7 milliards sur la table à son tour. On est donc visiblement parti dans une course à l'armement dans le domaine de la transition énergétique vers l'hydrogène vert. Et ça devrait nous interpeller, comme dans les années 30 ou les années 1940, où on combattait la crise à coups de commandes publiques destinées aux industries d'armement dans des pays d'avenir, dans ces pays d'avenir qui étaient l'Allemagne ou le Japon. On se lance aujourd'hui dans la subvention verte pour gagner la nouvelle guerre économique, celle de la compétitivité dans un contexte de crise et de récession. On avait cru naïvement que les crises successives depuis les années 1990 allaient finir par mettre par terre le capitalisme, puisque ces crises avaient prouvé qu'on avait besoin d'État pour enflouer les banques ou pour empêcher les entreprises de faire faillite pendant le confinement. On découvrait alors qu'on avait besoin d'État, qu'on avait besoin de planification pour faire face à des crises financières, sanitaires et à la grande crise écologique à venir. Et donc, le capitalisme allait tomber, allait disparaître, le monde de demain nous ouvrait les bras sans capitalisme. Mais c'est confondre naïvement capitalisme et libéralisme. Alors, petite définition. Le capitalisme, c'est la domination économique, mais aussi sociale et politique, des détenteurs du capital, des détenteurs privés du capital. Privés. Et ces capitalistes ne sont libéraux que quand ça les arrange. Leur programme politique, leur ligne, ça a toujours été la même depuis le 19e siècle. La socialisation des pertes, la privatisation des profits. Et la croissance verte obtenue à coup de taxes et de subventions en est un exemple absolument parfait. Le réchauffement climatique est un problème majeur qui ne peut être résolu qu'en changeant profondément de système de production. Or, les nouvelles techniques comme l'hydrogène vert et la pile à combustible ne sont pas rentables. Donc, on va subventionner leur développement. L'État, c'est-à-dire la collectivité, vous et moi, va donc s'endetter pour garantir un petit nombre choisi d'entreprises de générer du profit. Et cette dette, qui en principe doit être contractée auprès de fonds d'investissement privés, la finance verte, va être remboursée par des ménages qui vont payer des nouvelles taxes modernes, ce qu'on appelle par exemple la taxe carbone. Et voilà qu'apparaît à nos yeux ébahis ce nouveau monde vert, mais bien capitaliste.
À la poursuite du capitalisme vert par Alex, on y croit. Alors ça termine notre émission et on remercie tous les participants, Jean-Marc JMJ aux chroniques, Alex, Gaël et nos invités, Laurence qui était là pour Au nom d'attaque et Camille qui est intervenue pour les différents événements de samedi sur la marche des aéroports. Et on remercie bien sûr surtout Claude à la technique. Et pour terminer sur ce petit moment d'aviation, nous écoutons évidemment Robert Charlebois Lindbergh.
Jet Whisper, Jet Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie.